L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi et rediffusée à 18h. Un sujet qui va vous sembler grave pour un sujet de début d'année, mais pourtant il s'agit aussi d'être utile, de vous être utile, un jour peut-être, sans doute même. Nous sommes des personnes, mais nous sommes aussi, tout au long de notre vie, des administrés de l'État, de communes, d'autres organismes comme la Sécu, la Caisse d'allocation familiale. Nous sommes des assurés pour la maison, la voiture, d'autres choses encore. Nous sommes parfois des propriétaires. Nous sommes clients de banques, de téléphonie, de magasins, de fournisseurs d'énergie ou d'eau. Nous sommes profils de réseaux sociaux, comptes de sites internet marchands. Et c'est ainsi, notre monde est complexe. Quand nous mourons, tous ces autres nous-mêmes doivent aussi mourir formellement. Ce n'est plus notre problème, ça devient celui de nos proches, qui peuvent alors avoir besoin d'aide. Et il est bon qu'il existe des services comme ceux de notre invitée, Caroline Archand, qui dirige Acadia à Quimper. Des prestations de services, formalités administratives, avant et après décès. Notre invitée est à la fois administratrice et gestionnaire, mais aussi médiatrice, psychologue un peu. Elle intervient dans toute la Bretagne. Bonjour Caroline Archand.
Bonjour Véronique.
Alors racontez-nous comment vous en êtes arrivée à créer Acadia.
Écoutez, cette activité a débuté il y a plusieurs années. Pendant à peu près une vingtaine, 20 ans, j'ai évolué en relation avec l'immobilier, le notariat. Et régulièrement, je rencontrais des familles qui, avaient perdu un proche, étaient complètement accablées, ne savaient plus comment gérer. Et comme mon principal ADN est le soutien, l'humain, c'était une évidence pour moi de les épauler et de les accompagner. Et donc, régulièrement, je donnais un coup de main, je gérais l'administratif. Mais c'était pour une aide, mais il n'y avait rien de lucratif. Et plusieurs fois, on me disait, c'était, vous m'avez rendu service, qu'est-ce que je peux faire? Et je disais, non, c'était avec plaisir. Mais à l'époque, j'étais maman et je ne pouvais pas créer ma société. Mon conjoint était aussi en création d'entreprise. Et puis, j'ai attendu quelques années et ça y est, j'ai créé Acadia.
Ça fait combien de temps là que vous avez créé Acadia?
Ça va faire 3 ans.
Ouais, donc, vous commencez à avoir vraiment un recul. Enfin, ça a peut-être évolué d'ailleurs entre ce que vous avez créé au début et puis ce que maintenant vous proposez, c'est ça?
Oui, je m'adapte en fait à toutes les situations, aux attentes de mes clients. J'ai des services qui sont dédiés, mais on se retrouve souvent sur des situations qui sont différentes. Et donc, je fais du sur-mesure aussi.
Oui, c'est ça, c'est forcément. En fait, votre intervention, ça peut aller de combien de temps à combien de temps? Enfin, oui, j'imagine que c'est large.
C'est très large, mais j'ai mis en place, par exemple, un service où je rencontre les familles, je fais le point sur la situation, je leur explique ce qu'il faut faire, je gère les premiers courriers urgents, je leur donne la trame de ce qu'ils doivent réaliser ensuite pour suivre les démarches et les gérer. Et je les vois qu'une seule fois et c'est terminé. Ils peuvent bien sûr, s'ils sont bloqués, me rappeler. Mais ça peut être un service assez rapide, donc une rencontre de 2h30 et ensuite, ils peuvent gérer eux-mêmes.
Un petit conseil, quoi, en fait.
Un peu plus qu'un conseil, ouais. Mais oui.
D'accord.
Je les aiguille, je les guide.
Et alors, justement, il faut peut-être qu'on précise quand même d'emblée, parce que les gens pourraient se dire, oui, mais les pompes funèbres font ça un peu. Enfin, vraiment, il y a une grosse différence entre ce que vous faites à Acadia et ce que peuvent proposer les pompes funèbres.
Alors, oui. Déjà, je suis complémentaire au service des pompes funèbres. Je ne gère pas le funéraire, chacun son métier. Certaines structures, on va dire nationale, propose des services, mais de hotline, avec une aide sur des formalités qui vont être automatisées. Moi, ce n'est pas du tout le cas. Je rencontre les personnes, j'étudie la situation et toutes les formalités sont gérées au cas par cas. Donc, c'est vraiment complètement différent. Il y a de l'humain. Je ne suis pas un numéro, le client n'est pas un numéro parmi tant d'autres, c'est-à-dire que chaque client est géré de A à Z et épaulé. Donc,
vous les rencontrez physiquement, en fait, les gens.
Tout le temps.
Même sur toute la Bretagne.
Oui, je me rends donc au domicile du défunt pour justement prendre connaissance des papiers, de la vie du défunt, ce qu'il faut faire par rapport à aussi sa famille. Et c'est vrai que ces structures-là ne le font pas, ne se déplacent pas. Donc, si la personne ne sait pas quel papier trouver ou comment gérer les choses, eh ben, on peut avoir certaines informations qui ne sont pas transmises ou certaines demandes qui ne sont pas faites. Tandis que comme je me déplace, je peux aider aussi les personnes à faire le tri dans les papiers, etc. Ça peut être très compliqué.
Ah oui,
Rencontre des situations, notamment à 3 reprises cette année, la maladie de Diogène. Je ne sais pas si vous connaissez.
Alors, le syndrome de Diogène, il faut préciser ce que c'est, allez-y.
Oui. Et donc, ce sont des personnes qui accumulent toutes sortes de choses. Donc, ça va être les papiers, des objets, et à tel point que on va dire, l'habitation en est remplie. On ne peut quasiment plus se déplacer. Parfois, même la saleté s'installe, bien souvent. Et ils vivent enfermés dans ce lieu. Et donc, c'est très compliqué à la famille qui rentre, comme ça, de trouver tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer les formalités. Donc, moi, j'interviens. Et donc, je repars souvent avec des sacs poubelles et je fais le tri à mon bureau pour pouvoir éviter aussi à la famille cette situation qui est très compliquée.
Oui, parce que la famille n'est pas forcément si proche que ça du défunt ou de la défunte, en fait.
Alors,
c'est ça aussi.
Il y a ça, et parfois, certaines personnes ont un sentiment aussi de rentrer dans l'intimité d'une personne. Ça peut être vraiment dérangeant, à tout point de vue, suivant. Psychologiquement aussi. Il y a des choses qu'ils peuvent ne pas connaître, et en prendre connaissance, ça peut être déstabilisant.
Alors oui, alors peut-être qu'il faut préciser donc quelles sont en gros les démarches administratives, enfin les démarches pas seulement administratives, d'ailleurs qu'on doit faire quand on a perdu quelqu'un, quand on est le soutien, mais je ne sais pas comment on appelle ça, l'ayant droit.
Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami aussi, hein. Ce n'est pas une obligation. D'abord, il faut réunir, donc, comme je disais, l'ensemble des papiers concernant le défunt pour connaître sa vie, savoir ce qu'il faut faire. Et en priorité, informer les différents services, administration, les sociétés, les tiers pour lesquels le défunt a souscrit des contrats ou avait validé certaines choses. Donc, on les informe de la situation, mais ensuite, on doit réaliser des démarches qui sont souvent méconnues et compliquées. Résilier les contrats suivant la situation, ou alors les transférer au conjoint ou à une autre personne de la famille. Faire valoir les droits et intérêts des familles, des ayants droit.
Forcément s'adresser à un notaire, par exemple, quand
non.
Quelqu'un est mort, non?
Non, alors un notaire, il y en a dans la majeure partie des cas, oui, le notaire est là pour gérer, acter, on va dire, la situation, mais pas pour faire les formalités, comme je vous dis, les résiliations de contrat ou les transferts de contrat. Mais on a besoin d'un notaire s'il y avait un bien immobilier, une donation, un testament, si la succession est supérieure à 5 000 euros, il y a encore plusieurs choses qui rentrent en compte. Mais pour les personnes qui n'ont pas tous ces points-là, on n'est pas obligé. Par contre, s'il y avait des assurances spécifiques ou assurances vie, on va être obligé de fournir patte blanche, démontrer qui sont les héritiers. Et dans ces cas-là, oui, on est obligé de faire appel à un notaire pour justement faire un acte de notoriété, pour pouvoir dire qui sont les héritiers. Et c'est exigé. Je suis complémentaire au notaire. D'ailleurs, tous
vous
mes
connaissiez
dossiers,
cet univers, quoi.
Voilà, tous mes dossiers, je les gère en relation avec le notaire ou le clerc de notaire. Il est informé de mes démarches. Il me demande parfois de faire certaines démarches pour lui faciliter les choses. Parfois, il me contacte aussi dans des situations où les successions sont bloquées parce qu'il y a des mésententes.
C'est là qu'intervient votre rôle au-delà de la paperasserie. Enfin, quand même, juste sur l'aspect donc courrier, il y a combien de courriers en fait, en gros, en moyenne, quoi.
Une moyenne de 20 courriers.
Ouais, quand même.
Et quand tout se passe bien.
Donc vous avez en fait des modèles standards, j'imagine, puis après vous les adaptez selon
les gens.
Alors
standard, oui, pour certaines choses, mais bien souvent, non, il y a vraiment de la personnalisation. C'est géré au cas par cas.
Et donc, vous faites, parfois, vous êtes obligé de faire des véritables enquêtes, c'est ça ?
Oui.
De détective.
Alors, ça arrive parce que un autre dossier auquel je pense, une personne qui n'était pas du tout administrative et qui n'avait pas gardé ses contrats de travail. Et...
Une phobique administrative.
Voilà.
C'est ça.
Et donc, quand elle est partie, sa famille ne savait pas par quel bout commencer parce qu'elle avait tout jeté. Donc, c'est quoi ? C'est une question sur qu'est-ce que faisait la personne, où, quoi, comment. Donc, ça prend du temps. Et avec tout ça, j'ai contacté le dernier employeur. Et j'ai appris qu'il y avait un contrat de travail et qu'il y avait une prévoyance dans ce contrat de travail. Donc, il a fallu fournir patte blanche. Mais comme cette personne n'était pas administrative... Quand elle a arrêté cet emploi, elle ne s'était pas inscrite correctement à Pôle emploi. Quand elle est tombée malade, n'avait pas fourni ses arrêts de travail. Non, ses arrêts de travail, c'est pour bénéficier de ses indemnités journalières avec la Sécu. Enfin, il y avait plein de choses qui n'avaient pas été faites. Et donc, moi, j'ai remis toute la machine en route pour que, justement, la prévoyance soit active. Parce que sans inscription à Pôle emploi ou autre, ça ne fonctionnait pas.
Et c'est ça, pour les héritiers, en fait, pour qu'ils puissent au moins toucher l'argent qui leur permet de payer les frais d'obsèques ou des...
Alors oui, surtout qu'il n'y avait rien sur les comptes, il n'y avait que des dettes.
Ah ouais.
Donc c'était compliqué.
Mais dans ce cas-là, votre intervention, ça peut durer plusieurs semaines, voire des mois.
Là, elle a duré 8 mois.
Oui, c'est ça.
Elle a duré 8 mois, mais au lieu de dettes, pour terminer, la famille a récupéré plus de 10 000 euros.
Oui, c'est ça.
Qui a permis de payer les frais funéraires, les dettes de loyer ou autres qu'il y avait à solder. Et
vos services,
mes services
quand même,
aussi.
Voilà, hein, c'est pas gratuit.
Non.
Tous 8 mois.
Et c'est vrai que c'est un soulagement. Mais
oui,
ils n'auraient pas pu, comme ils me disent, penser à tout ce qui devait être fait.
Mmh.
C'est mon travail.
C'est ça. Donc vous
savez, d'agir voilà. Pour eux, qu'ils puissent être sereins et se consacrer à autre chose.
Donc vous êtes donc vous avez des compétences donc administratives bien sûr, donc de gestion aussi si on veut. Enfin, et vous savez aussi ce qu'il faut faire sur le plan financier parce que il y a quand même souvent des questions d'argent hein, dans ces
comme vous l'avez dit. Succession, oui. ça coûte de l'argent
ouais,
aux familles.
Déjà.
On n'a pas toujours les moyens de le faire. On peut avoir des solutions à condition que la succession puisse, une fois qu'elle sera clôturée, apporter un peu d'argent à la famille, parce qu'on ne va pas s'endetter. Donc là, le choix va être de valider la succession ou de la refuser aussi. Ça se passe chez le notaire. Là, c'est le travail du notaire d'expliquer quelles sont les possibilités, jusqu'à quel point on peut s'engager ou pas s'engager.
Et puis alors, quand il y a une maison, par exemple, quels sont les autres services que Acadia peut apporter aux proches des défunts ?
Alors, Acadia, le but, c'est d'avoir une seule interlocutrice ou un seul interlocuteur pour gérer toutes ces démarches. Donc, ça peut être aussi bien la mise en vente de la maison, donc avec des professionnels. Je suis entourée de professionnels pour m'épauler dans mon travail. Donc, l'estimation, la vente de la maison, jusqu'à la signature de l'acte chez le notaire. Ça va être aussi de faire vider la maison.
Ça, donc, c'est pas vous, mais c'est des entreprises.
Des entreprises extérieures. Alors, pour diminuer les coûts, une fois que la famille s'est partagée, donc le mobilier ou les autres biens qui sont dans le logement, et ça va être de trouver la structure. Donc cette structure peut aussi bien racheter les objets ou les mobiliers qui ont encore de la valeur, faire aussi des dons à des structures caritatives, et ça je trouve que c'est très positif. Et bien souvent on arrive à équilibrer, il reste plus rien ou un petit peu d'argent à verser à la famille une fois que les choses ont été vidées. Ça peut être aussi le nettoyage. Si, que la personne soit locataire ou propriétaire, il faut rendre le bien, s'il n'y avait personne d'autre dans le logement. Donc il va falloir le nettoyer, soit pour le vendre, soit pour le rendre au bailleur, et plus vite possible, pour que la famille n'ait pas trop de frais à payer.
Il y a des objets comme la voiture.
Voilà, c'est tout ça. Il y a des structures avec lesquelles je travaille qui gèrent l'ensemble de la vente des voitures et autres. Ça, c'est pas mon métier.
Oui, bien
sûr.
Mais
par contre, je suis bien entourée avec de bons professionnels.
Vous avez compté combien de prestataires, de partenaires vous avez ?
Véritablement non, parce que j'en ai quand même un bon nom, parce qu'il y a d'autres services. Hein, il y a quelque chose qui me tient à cœur et auquel les familles ne pensent pas non plus. Il s'agit de l'animal de compagnie.
Allons-y.
Alors l'animal de compagnie, il faut savoir que la loi française dit que les ayants droit doivent s'en occuper. Et on ne peut pas le laisser de côté. Alors certains iront l'abandonner à la SPA. Mais hélas, ces animaux font partie de notre vie. Il a déjà perdu son maître. Un autre abandon, c'est compliqué. Donc moi, je propose justement de placer dans une famille d'accueil. Alors, des fois, mes prestataires, ils ne sont pas tous disponibles. Ça m'est arrivé d'accueillir un animal chez moi.
Ah oui, vous êtes très impliquée, Caroline.
Je dirais que j'aime mon métier.
Oui.
Et le but est vraiment d'aider. Donc, je suis là à tout moment. Et donc, cet animal, après, c'est de trouver une famille qui va l'adopter.
Oui, parce que les gens ne veulent pas toujours récupérer. Alors, parfois, les gens se disputent la garde d'un animal, je suppose. Aussi.
Alors, ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. Et puis, ils n'ont pas tous la possibilité, suivant où ils habitent, leur vie, de le faire, ou l'envie de le faire. Donc, par respect pour le défunt, c'est d'essayer de faire les choses pour que tout le monde se retrouve avec... on va dire un certain soulagement, qui n'est pas d'autres complications. Perdre quelqu'un qu'on aime, c'est déjà un cataclysme. Alors si en plus, on se retrouve avec des problèmes, des disputes, si on peut les éviter.
Hein. Et donc, j'évoquais en introduction votre rôle de psychologue, médiatrice. Enfin, vous n'avez pas fait d'études dans ce domaine-là, on est d'accord.
Non, c'est la vie, c'est l'expérience.
Ouais.
Après, je suis entourée de psychologues.
Ah oui, quand même.
Oui, j'ai des professionnels qui sont dédiés, spécialisés dans le deuil. Il y a des groupes de parole aussi qui existent. Certaines personnes se muent dans le silence. D'autres ont envie de parler. Chaque deuil est différent, on l'aborde tous différemment. Et donc, je ne peux pas avoir toutes les casquettes, je ne peux pas tout connaître. Mais c'est vrai que, non, il y a des professionnels qui sont là pour chaque domaine. Et notamment, la discussion, l'échange, faire avancer les choses pour qu'on se retrouve avec un nouveau départ.
Et quels ont été les cas, ou quels sont les cas les plus difficile pour vous? Vous avez parlé du syndrome de Diogène, quand il faut chercher, quand la personne n'a rien jeté de sa vie, mais sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme situation qui peuvent être plus difficiles?
Les situations conflictuelles. Alors bien souvent, justement, quand je gère du vivant avec des personnes pour leur expliquer ce qu'il faut faire, souvent on me dit « mes enfants s'entendent bien ». Alors, j'espère qu'ils continueront à s'entendre parfaitement, mais une fois que... la personne a disparu, parfois on se retrouve avec des situations, des rancœurs du passé. Ou alors, ça peut être aussi, entre guillemets, c'est pas très beau ce mot, les pièces rapportées, donc les conjoints, qui peuvent attiser certaines situations. On se retrouve avec des discordes qui peuvent bloquer une succession. Et donc, dans ces cas-là, ça peut être un notaire, un avocat qui me contacte pour intervenir, en tant que médiatrice, pour aider... justement à essayer d'apaiser la situation pour pouvoir, clôturer la succession, sachant qu'une succession, logiquement, on doit la régler sous 6 mois.
Eh oui.
Donc ça peut être le partage du mobilier. Parfois, chacun a une envie et puis ils ont du mal à se décider. Donc j'interviens avec des solutions. Ça peut être tranchant aussi, c'est pas toujours agréable.
Ouais. Vous dites les choses aux gens, clairement, c'est
oui.
Ça
ouais, ouais. Mais je ne prends parti pour personne, même si des fois on a envie.
J'imagine.
Je ne prends parti pour personne. Mm-hmm. Je reste impartiale. Tout ce que je fais reste, confidentiel aussi.
Ah oui, bien sûr. Ouais.
Parce qu'on peut se confier à moi, ce n'est pas pour autant que j'irai raconter les choses. Alors ça peut avoir, on peut se retrouver dans des situations complexes, mais le but est vraiment d'aboutir à quelque chose de positif, d'apaiser les tensions.
Oui, je ne sais pas si ça arrive parfois justement quand une personne meurt, qu'on découvre des enfants cachés ou des choses comme ça. Enfin, ça ne vous est peut-être pas encore arrivé.
J'ai
mais...
pas eu ça. Ouais. Par contre, j'ai eu des situations vraiment, malsaines.
Mm-hmm.
Personne qui a utilisé post-mortem la carte du défunt, chéquier.
Et pas qu'un peu.
Pas qu'un peu. dans ces cas-là, on porte plainte.
C'est, ouais, là, vous êtes obligé d'intervenir.
Oui.
D'accord.
Oui, on porte plainte parce que c'est du vol. Mm-hmm. C'est triste, mais ça arrive, oui.
Oui, bien sûr. Et c'est de l'humain, n'est-ce pas? Et justement, alors, vous avez affaire à quel type de clientèle? On imagine que vous naviguez entre des situations de peut-être de très grande pauvreté jusqu'à des gens très fortunés. Enfin, comment
ça
se passe?
Il y a de tout. Il n'y a pas vraiment de, on va dire, de type de personnes. D'ailleurs, ma première cliente était une jeune fille de 23 ans.
Ah ouais.
Je ne m'imaginais pas me retrouver avec une personne aussi jeune qui avait perdu son papa d'origine étrangère. Et elle avait donné l'ensemble des papiers à un notaire en pensant qu'il allait tout gérer, mais elle n'avait pas compris. Et au bout d'un an et demi, elle était bloquée, des dettes, et elle m'a contactée.
Ah oui, donc vous pouvez intervenir très, très longtemps en fait, après le décès,
oui.
Finalement.
Ouais. Oui. Et donc, j'ai géré tous ces papiers entre l'étranger et la France. Mm. Ça a été assez complexe, d'ailleurs.
J'imagine, oui.
Oui, parce que les formalités ne sont pas les mêmes entre l'étranger et la France, hein, suivant le pays, même s'il fait partie de l'Union européenne.
Vous allez découvrir petit à petit, au fil de vos années d'expérience, vous allez découvrir des différents fonctionnements.
Sûrement.
Oui, j'imagine. Et donc, en fait, vous intervenez donc parfois très longtemps après un décès. Et puis, vous pouvez aussi, Acadia peut aussi proposer des services de, entre guillemets, d'anticipation, c'est ça? Enfin,
oui, en fait, comme j'explique, c'est que assez bien de décider de son vivant,
ouais.
de pouvoir anticiper, parce que ça protège ce qu'on aime. Et le problème, c'est que ce sujet est tabou. On a du mal à en parler et on se dit que ne serait-ce que la partie funéraire, ils décideront pour moi. Et c'est quelque chose qui est pas facile, décider pour quelqu'un d'autre.
Oui, parce qu'une prévoyance obsèque, je ne sais pas exactement ce que ça prévoit, mais ça prévoit pas tout, certainement.
Alors,
pas
forcément, c'est au moins de dire à ses proches ce que l'on souhaiterait pour ses funérailles, dans le sens où j'ai déjà vu des situations très compliquées où les proches ne connaissaient rien, n'avaient pas eu les souhaits du défunt. Or, quand on se rend aux pompes funèbres, les pompes funèbres demandent quels étaient les souhaits du défunt. Et là, on ne sait pas. Et ça peut être très, très, très compliqué, très lourd aussi au niveau des décisions. Surtout quand, une fois que les funérailles ont eu lieu, on découvre un papier où la personne avait couché ses souhaits et qu'on ne les avait pas respectés. Psychologiquement, c'est quelque chose de très dur.
Et puis, il y a d'autres anticipations, j'imagine, d'ordre plus matériel et financier.
Alors, matériel, financier. Alors, le notaire est quelqu'un de très important. Le notaire de la famille qui les connaît va pouvoir leur préconiser de faire des donations pour protéger. On pense qu'être pacsé est suffisant. En plus, quand on est une famille recomposée, non. Mmh. Non. Et certains conjoints peuvent se retrouver dans des situations très compliquées et être mis dehors du jour au lendemain.
De leur logement, en fait. Quoi.
Ouais, du logement du couple.
Ah oui.
Si on peut éviter tout ça, prévoir de son vivant, c'est un exemple, mais il y a énormément de choses. Et justement, éviter que ceux qu'on aime prennent des décisions à notre place, et surtout éviter des situations de dispute qui pourraient devenir très très difficiles pour certains. Mmh.
Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier que vous avez inventé, donc?
Qu'est-ce que j'aime dans mon métier? Alors déjà, souvent le premier rendez-vous, les personnes sont fermées, ne savent pas comment ça va se passer. Donc déjà, j'essaye de les mettre à l'aise, de leur montrer que je suis là pour les aider. Et qu'est-ce que j'aime, c'est qu'une fois que le rendez-vous s'est passé, a eu lieu, c'est le sourire que j'arrive à leur donner malgré tout. Les merci en me disant, mais on est rassuré, On est serein, on sait qu'on peut compter sur vous. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau pour moi, de pouvoir aider ces personnes à pouvoir reprendre le cours de la vie. Parce que la mort, et là, c'est la vie.
C'est la vie, ça en fait partie, en tout cas, c'est oui. sûr. On vous a déjà dit que votre tâche, enfin, votre mission était d'utilité publique, c'est ce que vous me disiez.
Oui, on me l'a dit régulièrement. C'est vrai que le souhait, ce serait de pouvoir développer mon métier.
Alors comment, oui, comment vous
Alors,
pouvez le faire
Je pense qu'une licence serait l'idéal, avec des personnes triées, des personnes honnêtes, avec la même envie que moi d'avancer, d'aider. Et il faut avoir de l'empathie, mais pas trop non plus.
Mais oui, parce qu'après on souffre.
Il faut être solide dans sa tête.
Ouais.
Et puis connaître beaucoup de choses. Donc en étant une équipe, on pourrait justement avoir encore plus de services disponibles et pouvoir aider le plus grand nombre. D'ailleurs, j'espère en 2023 terminer un livre qui expliquerait les démarches. Et ce livre permettrait justement aux personnes qui ne peuvent pas se permettre de s'offrir mon service, mes services en présentiel, d'avoir un ouvrage qui va leur permettre de leur expliquer comment faire.
Un guide.
Ouais. Pour qu'ils puissent justement arrêter de se poser des questions et aller à l'essentiel.
Eh bien, merci beaucoup, Carolina Archand, Acadia, d'avoir inventé Acadia et d'être venue nous en parler sur Radio Évasion.
Merci beaucoup, Véronique, pour votre accueil.
À très bientôt.
Avec plaisir.